Nous avons deux codes dans l'Église. Ces deux codes sont été faits avec un élan de 10 années, plus ou moins. Alors, le dernier, c'était le code oriental. Il y a des choses pour la tradition orientale qui sont différentes que dans les codes latins. Mais cette différence qu'on connaissait au début est devenue critique après la mobilisation de la population et l'émigration dans les dernières années. Beaucoup de gens catholiques orientaux viennent dans les pays de l'Église latine. Alors, on a trouvé que ces différences posaient des problèmes importants dans les paroisses, surtout dans les évêques, dans ce domaine. Et on a vu le besoin de clarifier, d'établir une loi commune qui tient compte de ces différences. C'est tout ça.
Cela concerne notamment le baptême, mais aussi le mariage. Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Alors, oui. C'est surtout les choses sont l'église d'appartenance de chacun. On a cherché d'éclairer les normes de façon qu'elles soient toujours bien claires et exactes, que l'église appartient les enfants baptisés dans les territoires latins, mais dans les parents sont orientaux. C'est une chose, l'église d'appartenance. La deuxième chose, l'église d'appartenance, surtout dans les moments du baptême.
Pour bien comprendre, il y a vraiment ce qui change, c'est la notion d'appartenance. C'est-à-dire que si un couple de chrétiens orientaux habite dans un pays où il n'y a pas de clergé oriental pour qu'ils puissent suivre leur rite oriental, l'église catholique peut maintenant, à présent, avec ce motu proprio, dispenser des sacrements ?
Pas dispenser des sacrements, c'est pas ça. Il faut distinguer les orientales et les orthodoxes. Les orientales qui sont catholiques, on a fait cette norme parce que les ministres qui doivent venir ces mariages soient un prêtre. Ça, c'est pour les catholiques. Pour les orthodoxes qui ne sont pas catholiques, qui se trouvent en France, en Espagne, en Italie, et n'ont pas de propres ministres, ils peuvent être mariés par un prêtre catholique, le curé catholique, et dans certaines conditions qui sont très faciles à établir. C'est pour aider même les personnes qui ne sont pas catholiques et ne peuvent pas trouver un propre ministre. La deuxième chose, c'est la question des mariages. Mais on a établi qu'on savait qu'il y avait deux différentes disciplines. Les besoins d'un prêtre, pas seulement d'un diacre, pour venir les mariages des orientales. Alors, on a établi une norme positive en clairant qu'il faut que, dans les cas de mariage des orientales, il y a toujours un prêtre, pas seulement un diacre. La troisième chose, c'est les questions écuméniques, qui n'étaient pas si claires dans l'école latine. Maintenant, il est permis aux prêtres latins, dans la paroisse, de baptiser des orthodoxes, pas seulement des catholiques, qui n'ont pas un propre ministre de culte, et aussi même de les marier des orthodoxes, pas catholiques, dans les cas, ils n'ont pas un ministre de la propre Église, mais ils ont été prévenus de qu'on aurait fait cette célébration dans l'Église catholique.
Alors, un autre aspect de ce motu proprio, Monseigneur Arrieta, concerne la réponse authentique au sacrement de l'ordination.
Oui,
expliquez-nous.
C'est un autre document.
Alors, de quoi s'agit-il sur cette réponse authentique ?
Il s'agit à propos d'une interdiction, d'une prohibition pour être ordonné ceux qui ont fait l'avortement, des crimes, des homicides, comme ça. Ce nouvel document est clair que c'est la question d'avoir fait les faits, les crimes. C'est une question formale. Alors, ça, c'est que signifie ? Signifie que il y a quelqu'un qui, avant être ami dans l'Église catholique, avait commis l'avortement, s'il était pas catholique, c'est la même chose. Il y a l'irrégularité, il faut obtenir la dispense de la part de l'autorité ecclésiastique. Pour les droits canoniques, pourtant, c'est la vérité des faits. Et c'est pas seulement la formalité d'avoir commis un délit, mais l'avoir fait une chose qui n'aide pas à la préparation des sacrements de l'ordre.